La vagabonde, le monde est sur vos ondes.
Aujourd'hui, on vous emmène dans un univers un peu fou, un peu burlesque, celui des premières héroïnes du cinéma muet, des femmes qui bousculent tout sur leur passage et qui reviennent à la vie grâce à la musique. Un ciné-concert participatif à découvrir, elles n'en font qu'à leur tête. C'est le sujet de l'édition de cette semaine de La Vagabonde, votre émission culturelle hebdomadaire sur le 88.6. Proposé par l'album en musique, ce ciné-concert est à retrouver au cinéma Le Navire à Aubenas le dimanche 26 avril et pour vous en parler, je suis avec le compositeur Nicolas Gouge, la violoniste et chef d'ensemble Estelle Arbulot et deux musiciennes qui participent à l'aventure, Françoise Tavernier et Elina Fondeville. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, un ciné-concert, concrètement, ça veut dire quoi ?
Alors, un ciné-concert, c'est l'accompagnement de films muets par des musiciens en live. Et en général, c'est des films muets du début du XXe siècle, en tout cas du début de l'histoire du cinéma, et donc qui sont accompagnés par des musiciens sur scène, parce qu'au tout début du cinéma muet, bah justement, comme son nom l'indique, au tout début du cinéma, on ne savait pas mettre du son en même temps que des images, et donc on a préféré s'abstenir d'essayer de faire ce lien qui n'était pas très réussi, et du coup des musiciens étaient employés. C'était parfois des métiers spécifiques, il y avait vraiment souvent des pianistes d'ailleurs, des pianistes de cinéma muet qui faisaient quasiment que ça de leur carrière.
Elles n'en font qu'à leur tête, c'est le ciné-concert sur lequel vous avez travaillé tous les quatre avec 49 autres personnes. Ça a retrouvé donc le 26 avril. Pourquoi vous dites que c'est un ciné-concert participatif ?
Alors, c'est participatif parce que nous avons essayé d'intégrer l'ensemble des participants, les musiciens, à la création de l'œuvre. C'est-à-dire que nous avons commencé, avant que je commence la composition et l'écriture, nous avons eu plusieurs réunions pendant lesquelles nous avons pu regarder ensemble les courts-métrages. Tout le monde a participé en disant ce qu'il souhaitait entendre comme musique, comme effet sonore, comme illustration, sur ce qu'il voyait. Et l'idée, c'était qu'une fois la partition écrite, chacun puisse retrouver une ou plusieurs de ses idées dans ce qu'il entendrait dans le résultat final.
Et à partir de cette participation, Nicolas Gouge, vous avez composé une œuvre originale pour ce projet. Comment ça s'est construit ?
Alors, c'est un projet un petit peu particulier. D'abord, il faut savoir que la musique à l'image, c'est un métier à part entière de la composition. On fait des études particulières pour ça, ce qui n'est pas mon cas. Donc c'était une première pour moi, c'était une découverte, puisque il y a évidemment la contrainte
difficile pour moi à la direction. J'ai dû beaucoup travailler aussi personnellement, mais aussi difficile pour les élèves, parce que quand on commence à avoir un tempo, on commence à sentir bien dans le tempo, bah, en fait ça dure pas et on change directement d'ambiance. Donc voilà, c'est un gros challenge et il y a 8 courts-métrages, donc 8 groupes à rassembler plusieurs fois, souvent, à motiver, parce qu'il y a eu des petits moments forcément de découragement sur un projet qui dure 6 mois. Bah, y a des moments où il y en a qui pensent ne pas y arriver, etc. Donc j'agis un peu comme chef d'orchestre, mais aussi un peu comme coach sportif. Ouais, c'est Nicolas qui m'avait dit ça un jour après la première grosse répétition, qu'il trouvait que j'agissais comme un coach sportif en sport collectif. Bon voilà, je trouve que ça correspond bien à l'ambiance que même moi que j'ai dans ma tête quand je mène un projet comme ça.
Et vous, Elina et Françoise, vous faites toutes les deux partie de cet ensemble. Quel est votre instrument ? Quelle est votre place dans cet ensemble ?
Alors moi, je fais de la flûte traversière. Et je joue dans Léontine s'envole, un court-métrage de musique de chambre, et dans 2 courts-métrages de l'orchestre, et un dont je fais la flûte à coulisses, pour des passages, par exemple le passage du train, ou quand le clocher s'effondre,
C'est des rôles de bruitage, mais qui sont très intéressants aussi pour les enfants, parce qu'il faut être attentif à d'autres choses.
Et vous, Françoise ?
Moi, je fais partie de l'orchestre, où je joue du violon, pour deux courts-métrages, La grève des nourrices et Non, je ne sortirai pas sans toi.
C'est ça ? Non, tu ne sortiras non, pas sans moi.
C'est dans l'autre sens.
C'est dans l'autre sens. Et je fais partie aussi d'un court-métrage où je joue du piano avec des violonistes. Ça s'appelle « Monsieur veut se marier ».
Oui, ce qu'on entend, c'est que ce ciné-concert, il s'appuie sur un programme de court-métrage. Donc ça a été rassemblé par Gaumont autour de ce titre. Elles n'en font qu'à leur tête. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces films ? Pourquoi ils ont été rassemblés ? Et qu'est-ce qui vous parle dans ces films ?
Alors, ils ont été rassemblés parce qu'ils mettent à l'honneur des femmes héroïnes en général. Et aussi, il y a Madame a des envies qui est aussi carrément de Alice Guy, donc la pionnière du cinéma muet. Et il a un côté assez féministe. En tout cas, c'est des femmes de caractère qui montrent qu'elles ne se laissent pas faire, etc. Alors bien sûr, il y a 100 ans de décalage. Donc c'est à prendre avec un décalage de société. On n'est pas le féministe de maintenant n'est pas le féministe d'il y a 100 ans, mais il est pas moins admirable d'avoir osé faire du cinéma sur de tels propos il y a 100 ans. C'est encore plus courageux de leur part.
Dans la description du ciné-concert, on retrouve le nom des héroïnes, donc Léontine, Rosalie. Qui sont-elles ? Est-ce que vous avez un court-métrage que vous préférez ou un personnage que vous préférez, que vous aimez particulièrement ?
Alors moi, j'aime bien Léontine, qui apparaît dans Léontine s'envole et La pile de Léontine. C'est une jeune fille qui veut faire ce qu'elle veut sans se laisser... emportée par les autres, je dirais. J'aime bien parce qu'elle a beaucoup de caractère.
Ouais, elle est très rigolote.
Et qu'est-ce que ça change pour vous, en tant qu'amateur, amatrice, de travailler sur ce type de projet, un ciné-concert, plutôt que sur quelque chose de plus classique ? Qu'est-ce que ça apporte de différent comme expérience ?
C'est un projet de longue haleine, où il faut beaucoup travailler. Et en même temps... contrairement à la musique de chambre, par exemple, ou à l'orchestre, il faut se caler avec l'image. Donc, il faut regarder nos partitions, regarder le chef d'orchestre pour aller avec le rythme. C'est un petit peu complexe. C'est plus complexe que le simple orchestre ou le simple fait de participer à la musique de chambre.
Très, très, très sincèrement, ce projet... n'a pas d'équivalent en Ardèche méridionale dans les 25 dernières années. C'est vraiment un projet d'une ampleur hors norme qui nous a été proposé par le Festival de la Baume en Musique et la Maison de l'Image. On les en remercie parce que grâce à ce projet, on va pouvoir démontrer que on sait faire des choses, y compris des choses hors normes, y compris des choses difficiles. Et que quand tout le monde se retrousse les manches, on arrive à des résultats qui sont assez impressionnants. Voilà. Donc je pense que, oui, c'est un projet qui va marquer les esprits. Qui va marquer les esprits. Et on entend depuis plusieurs mois un engouement important autour de ce projet-là. Et je croise régulièrement des gens. Je pense qu'Estelle, c'est la même chose. On croise des gens qui nous en parlent. Alors que le projet n'a pas eu lieu, jusque dans la vallée du Rhône, moi on m'en parle, ah c'est bientôt le ciné-concert, comment ça se passe, voilà. Donc vraiment il y a un effet boule de neige, moi je suis vraiment fier de ce qui va être fait, parce que effectivement c'est un travail qui a été très grand pour tous les participants, et encore une fois je pense que c'est ce que je trouve remarquable. J'ai assisté à plusieurs répétitions et je trouve que l'engagement de chacun est remarquable. Vraiment. Tout le monde essaye de vraiment donner le meilleur de lui-même et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vraiment.
Oui, et puis la spécificité de ce projet est l'ouverture dans les âges, que ce soit ouvert à des tout jeunes. En fait, tous les participants, tous les gens des écoles de musique, c'est Manema, qui avaient envie de participer, ont trouvé leur place. Et ça, c'est effectivement, il y a eu des projets d'envergure ces dernières années, notamment grâce à la Beaumont Musique. Il y en a eu plusieurs. Mais celui-là peut pas faire mieux au niveau intergénérationnalité. Parce que, voilà, on mêle sur scène et dans le même projet et avec le même engagement, tous les publics motivés.
Dès le départ avec Estelle, on s'était dit, on ne refuse personne. Toute personne qui a envie de participer sera la bienvenue. Et si elle n'y arrive pas, c'est de notre faute. Soit j'aurais écrit quelque chose qui ne lui convient pas, soit Estelle, mais ça n'arrive jamais, lui demande quelque chose qu'elle ne veut pas faire.
Et dans cet ensemble, il y a aussi la musicienne professionnelle Guylaine Florent à la flûte et au basson. Quelle est sa place dans le projet ?
Sa première place, c'est qu'elle est professeure au CEMA. Et donc, comme tous les profs du CEMA volontaires, ils ont participé à la préparation des ensembles. Et ensuite, la deuxième place qu'elle a, c'est qu'elle est musicienne professionnelle. Et du coup, elle vient aussi en renfort, sur les dates et sur les répétitions pour avoir un soutien musical. Elle a des parties de basson qui ne sont pas forcément tout le temps faciles. D'ailleurs, elle me l'a dit hier à une répétition dans laquelle elle faisait partie, où elle disait que même pour des professionnels, ces changements de rythme, de tempo, ne sont quand même pas si évidents que ça. Donc voilà, elle a des parties de basson, des thèmes qui sont très jolis, etc. Et puis elle est là aussi en renfort, comme on en parlait avec Nicolas, un peu en infiltration au milieu des amateurs. Et elle rassure tout le monde parce que tout le monde la connaît. Et voilà, ça fait partie aussi. Et je pense que le jour J, ça on n'y est pas encore, mais le jour J, j'aurais besoin aussi de ces professionnels pour les changements de plateau, pour dire aussi aux petits, aux plus jeunes... quand se préparer, pas forcément pas que aux plus jeunes, hein. Parfois les plus jeunes peuvent être très concentrés sur des choses comme ça, donc voilà, en tout cas pour j'aurais besoin de main d'œuvre sur place sur le plateau pour préparer tout ce monde pour qu'il y ait le moins d'interruptions possible.
Et oui, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a 8 courts-métrages, 8 ciné-concerts finalement, et entre chacun des courts-métrages, il y a aussi des interludes que vous avez composés. Comment vous avez composé ces interludes ?
Alors, j'ai cherché un petit peu dans la littérature, un petit peu dans le répertoire, quelle pouvait être l'héroïne qui illustre le plus. Elles n'en font qu'à leur tête, et il n'y en a qu'une qui m'est venue immédiatement à l'esprit, que tout le monde connaît, c'était Carmen. Et donc, en fait, j'ai adapté des thèmes de Carmen aux instrumentistes, donc bien ralentis, bien simplifiés, des choses comme ça, pour que tout le monde puisse entendre des thèmes que tout le monde connaît pendant ces interludes-là, qui seront joués par des petits ensembles, où on a même guitare et chant, des choses comme ça, voilà. Tous les interludes, il y a un petit chant d'introduction et un petit chant de conclusion. Et tout ça est fait autour de Carmen. Donc, j'ai rien composé, j'ai adapté.
Mais voilà, l'idée c'était de ces interludes, c'est d'avoir le moins de temps mort et vraiment que la musique soit omniprésente. Alors, pareil, c'est aussi un challenge parce que qui veut dire adapter et avoir de la musique en permanence veut dire... adapter les plateaux le plus possible pour qu'il n'y ait pas de trou, que les musiciens soient prêts quand même d'un court-métrage à un interlude, d'un interlude à un court-métrage. Donc voilà, c'est aussi des challenges qu'on verra le jour même, parce que le cinéma, on ne peut pas l'avoir à n'importe quel moment, hein, c'est le principe, il y a des séances en permanence.
Oui, puis ça crée une identité, une ligne autour de cette question « Elles n'en font qu'à leur tête ». Est-ce que chaque film a sa couleur musicale ou est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble ? Comment ça se construit, cette alternance ?
Alors, chaque film a sa couleur musicale. La plus simple raison, c'est que l'instrumentation est différente à chacun des courts-métrages. Tantôt l'orchestre entier, tantôt juste un piano, un violon. Ça peut être vraiment très différent. On a de la musique de chambre, on a un petit ensemble, on a l'orchestre complet avec 35 musiciens, chant, guitare, des choses comme ça. Vraiment, tout est différent. Il y a plusieurs façons d'illustrer l'image. On peut faire une illustration, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre. On peut aussi donner un sentiment sur ce qu'on voit à l'image. Je vous donne un exemple particulier. Par exemple, dans un des courts-métrages, on voit des gendarmes en train de battre des nourrices. C'est censé être amusant, et ça l'est certainement, puisque en plus, ce qui est amusant, c'est que quand il y a des cascades faites par des femmes, on voit que ce sont des hommes déguisés avec des robes. Parfois même très costauds, je pense qu'ils ont engagé l'équipe du rugby d'à côté, c'était assez rigolo. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de blessés, que c'est burlesque, que c'est amusant, mais évidemment, avec le regard qu'on a maintenant, surtout ces dernières années, je ne pouvais pas... tout cas moi, je refusais de montrer ça sous quelque chose d'amusant, donc j'ai mis de la musique plutôt triste pour accompagner cette chose-là. Voilà, pour bien exprimer le fait que c'est drôle, mais pas trop finalement. Voilà.
C'est une manière aussi de réinterpréter ces films.
Voilà, c'est une façon aussi de réinterpréter les films, puisque comme le disait Estelle, c'est de l'humour qui a 100 ans. Même plus, 110, 115 ans, donc les choses sont différentes. Et effectivement, ce qu'on appelle féminisme ou tout simplement liberté d'action ou de parole des femmes, et Dieu merci, n'est plus la même maintenant, mais voilà. Donc effectivement, il a fallu illustrer tout ça, et je me suis beaucoup amusé aussi, puisque l'idée était de faire un ciné-concert, et je me suis dit qu'on a tous de la musique de film en tête quand même. On connaît tous énormément de musique de film. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de citations de musique très célèbres. Une trentaine. Je ne les ai pas toutes comptées, mais je crois qu'il y en a une trentaine qui illustrent ce qui se passe à l'image. Je donne un exemple. Par exemple, il y a un moment où on voit un couple en train de se poursuivre sur le toit d'un train. Et à ce moment-là, on entend la musique d'Indiana Jones. Voilà. Ce genre de choses. Donc, c'était pour nous faire plaisir. C'était pour faire plaisir au public également, pour qu'ils puissent, voilà, ça peut permettre aussi de colorer, de donner une touche d'humour. Quand vous avez une voiture toute déglinguée qui marche à la machine à vapeur et que vous entendez en même temps la musique de James Bond, ça crée un décalage comique, amusant. Donc il y a ce genre d'effets qui sont prévus. Et puis je pense que ça fait aussi plaisir aux musiciens de jouer des musiques célèbres. Et puis ça facilite aussi la vie, parce que quand on a déjà l'air en tête, c'est plus facile à jouer que quand on découvre la partition en entier. Voilà. Alors c'est quelques petites touches, évidemment, hein, mais c'est quelques petites touches de quelques secondes. Et puis d'autres surprises, on va faire participer le public. Voilà, il y a des choses comme ça.
Ouais. C'est sûr que ça fait plaisir aux élèves, ça je le vois tout le temps, ça me fait plaisir à moi. Hein. Quand je dirige Indiana Jones, je m'éclate aussi.
De jouer avec ces anachronismes.
C'est ça, exactement.
Et vous, en tant que musicienne, de quoi vous vous souviendrez dans quelques années de ce projet ?
Du groupe qui s'est formé autour de ce travail. Voilà. Et de l'énergie d'Estelle à nous diriger, à être patiente. Et c'est pas toujours facile.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce groupe ?
Le groupe, il était déjà un petit peu formé puisque travail d'orchestre. Mais il y a eu des personnes nouvelles qui sont arrivées et on sent une cohésion qui se fait entre les personnes, encore plus maintenant qu'on travaille sur ce projet.
Donc une cohésion intergénérationnelle.
C'est ça, c'est très sympathique, oui.
Ce qui est rigolo dans tous ces projets, comme je disais, j'ai fait plusieurs gros projets pour la Beaumont Musique avec le CEMA ces dernières années. Celui-là est d'envergure hors norme. Mais c'est toujours un peu le cas. J'ai toujours, au début d'un projet, un peu de réticence, un peu d'appréhension. Et puis, il faut que je fasse appel à beaucoup de mon énergie à moi pour arriver à motiver les troupes, entre guillemets. Et il y a un moment où la mayonnaise prend. Et elle est inarrêtable et c'est très fort. Même pour moi, ce que je ressens effectivement en répétition, vous êtes témoin, je peux vous en demander beaucoup, je peux être exigeante, etc. Mais il y a un moment où je sens qu'ils sont prêts. Parce qu'ils ont tellement envie que ce soit bien qu'ils veulent de l'exigence aussi, quoi. Donc, ils veulent y arriver et c'est assez fabuleux ce moment où j'ai l'impression que la mayonnaise a pris. Parce que c'est pas gagné dès le départ, même si ils sont volontaires, mais ils ont les partitions, ils connaissent pas, c'est difficile. Ils se rendent pas du tout compte de ce que ça va être au bout. Même moi, au début, je me rends pas compte. Je commence à avoir l'expérience un peu de ces projets, mais je me rends pas du tout compte de ce que ça peut mener. Et voilà. Et à un moment, De fil en aiguille, répétition après répétition, ça y est, je sens que ça prend. Et effectivement, l'orchestre que j'ai maintenant, pourtant qui est quasiment le même que celui que j'ai tous les mardis soirs depuis plusieurs années, pour moi, il est très, très différent en ce moment. Et je suis sûre, pour le coup, qu'après cette prestation, ce sera différent. Que ce qu'on aura formé avec cette expérience sera très différente après. Et ça nous aura servi pour beaucoup de choses et pour monter des œuvres plus conséquentes, etc.
Vous, en tant que musicienne amateur, qu'est-ce qui vous a donné envie au début de participer à ce projet ? Qu'est-ce qui vous a amené à ce ciné-concert ?
Moi, je pense c'est chouette, c'est bien parce que c'est pas tu répètes un morceau et à un moment tu vas le présenter et voilà, c'est fini. Là, il y a vraiment beaucoup de travail, de répétition, et en même temps, tu as envie de réussir. Tu donnes les moyens, et moi, même si c'est beaucoup de travail, je trouve ça génial. On se rejoint entre amis, on joue ensemble, on essaye de toujours faire mieux. Et parfois, c'est vexant, mais...
on ne réussit pas tout le temps.
Je trouve ça super.
Mais c'est un vrai challenge qui crée aussi un peu de stress, mais qui amène aussi à cette exigence dont vous parliez tout à l'heure.
Bah oui, c'est sûr. Mais l'orchestre a déjà suivi Estelle pour plusieurs projets, mais là, c'est encore plus fort puisque ça dure plus longtemps, la préparation, et c'est vrai que c'est très stimulant.
Ensuite, je le dis aussi aux amateurs, pour enlever la pression, ça reste un projet amateur avec, comme on l'a dit, qui a été ouvert à tous les participants. Donc, il ne faut pas mettre plus de pression que ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire de faire le meilleur d'eux-mêmes. Il y aura forcément des petits couacs, il y aura forcément des petites erreurs, moi compris, en tant que chef. Et moi, vraiment, ce que je veux voir, c'est que tout le monde donne le meilleur de ce qui peut ce jour-là. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bien sûr qu'il y aura des petites erreurs. Sinon, si on ne voulait pas d'erreurs, il faudrait un orchestre professionnel. Et encore, même les professionnels peuvent faire des erreurs. Donc, à partir du moment où c'est ouvert à l'école de musique, on enlève la pression. Le but, elle y sera toujours un petit peu, parce que tout le monde a envie de faire le mieux possible. Mais à partir du moment où je sens cette émulation, cette envie, ce travail de tout le monde, tout le monde va faire ce qu'il peut et ce sera déjà super bien comme ça.
Et c'est aussi cette possibilité de l'erreur, cet apprentissage qui construit aussi cette émulation et toute la beauté du projet. J'imagine qu'il y a aussi le plaisir qui est au centre de toute cette construction. Et pour vous, Nicolas Gouge, donc j'entendais tout à l'heure l'enjeu de faire du sur-mesure. Mais qu'est-ce que ça change d'autre artistiquement et qu'est-ce que ça apporte de travailler avec des amateurs sur le plan artistique? On a entendu déjà des éléments. Hein.
Ça apporte qu'ils sourient, ils ont envie et ils sont contents de découvrir des choses nouvelles, ce qui n'est pas forcément le cas toujours des musiciens professionnels qui, en général, rushing un peu quand il s'agit de sortir un peu des sentiers battus ou quand il y a des nouveaux répertoires. C'est pas toujours simple.
Attention, on a aussi une musicienne professionnelle en studio. Hein.
C'est pas toujours simple. Cette émulation, elle est assez extraordinaire. Je suis ravi de voir que, en toutes circonstances, même quand ils se font un peu tancer vertement par ils gardent le sourire et puis voilà, il y a cet aspect familial, convivial. Ils ont bien compris que c'est pas parce qu'ils avaient fait une petite erreur que ils étaient mal jugés ou des choses comme ça. Voilà, ils ont passé ce stade-là et effectivement, il y a cette émulation pour essayer d'aller au mieux. Et tout en se disant que si j'ai raté, puis voilà, c'est pas bien grave. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, pour ce qui est de la composition pure, effectivement, ce qui vous vient naturellement dans la tête quand vous voyez quelque chose n'est pas forcément adapté aux interprètes. Parce que ça va être trop compliqué, parce que ça va être pas jouable, parce que vous avez des contraintes, par exemple de tempo, où je me suis arrangé pour qu'il y ait quasiment le même tempo, sans que ça s'entende pendant tout le concert, la même pulsation. Typiquement des musiques comme celle de Charlie Chaplin, qui sont extrêmement complexes, avec des changements de tempi toutes les 3-4 mesures, etc. Même pour des orchestres professionnels, c'est épouvantablement compliqué. Et donc là, on ne peut pas demander ce genre de choses aux amateurs. Donc il a fallu que je trouve des subterfuges pour qu'on entende de la musique qui a l'air compliquée alors qu'elle ne l'est pas. Et donc ça a été très très instructif, j'ai appris vraiment plein de choses sur l'écriture technique, et Estelle m'a beaucoup aidé, puisqu'elle a une grande expérience, alors pas en tant que chef, mais en tant que musicienne de la musique à l'image et des ciné-concerts, puisqu'elle en a fait plusieurs déjà, elle m'a donné des conseils très pertinents sur comment arrêter des phrases, des choses comme ça, pour que eux puissent se repérer si jamais ils sont en retard, en avance, qu'on puisse repartir, des choses auxquelles on pense pas forcément quand on est compositeur, puisqu'on a la musique dans la tête et qu'on s'imagine que ça va dérouler tout seul derrière et que ça va bien se passer. Mais c'est pas parce que la musique est simple qu'elle est facile à jouer dans ces conditions-là. Donc c'est vraiment un travail technique très particulier et on a collaboré avec Estelle. J'ai encore fait des modifications la semaine dernière. Donc, alors que la partition est close depuis bien des mois déjà. Donc on adapte tout le temps. Et il y aura certainement encore d'autres adaptations après le ciné-concert pour préparer au mieux la séance de novembre. Voilà, on adapte tout le temps. Donc c'est très intéressant. Ça permet aussi aux compositeurs de vivre un peu différemment de « j'écris quelque chose tout seul dans ma tour d'ivoire et puis vous vous débrouillez avec le petit morceau de papier que je vous donne ». Il y a un aspect interactif qui est très intéressant, vraiment.
Et on arrive à la fin de cette émission. Avant de se quitter, une dernière question à chacun et chacune de vous. Alors, pourquoi faut-il venir voir ce ciné-concert « Elles n'en font qu'à leur tête » le dimanche 26 avril? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au public pour leur donner envie de venir?
Venir voir une réalisation originale avec une participation de tous les âges et en plus des courts-métrages intéressants aussi.
Bon, je pense que vous allez forcément passer
à retrouver au cinéma Le Navire à Aubenas le dimanche 26 avril à 17h. Les tarifs sont entre 6 et 12 euros. C'est gratuit pour les moins de 6 ans. Restez bien d'ailleurs à l'écoute de la radio Info RC, car quelques jours avant la représentation, nous ferons gagner 2 places sur le 88.6 à nos auditeurs et auditrices. Et dire aussi, avant de se quitter, qu'il y aura une deuxième représentation de ce ciné-concert. Il faudra attendre novembre 2026 pendant les rencontres des cinémas d'Europe au théâtre de Vals-les-Bains. Donc ce sera encore une autre ambiance à retrouver pendant les rencontres des cinémas d'Europe. Merci à vous, Nicolas Gouge, Estelle Arbulot, Françoise Tavernier et Elina Fonteville d'être venues dans nos studios pour nous parler de ce projet passionnant. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir reçus.
Merci.
La Vagabonde, le monde est sur vos ondes.